tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fogo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila, c'est Topin.
À la une de l'actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP annonce la tenue de son 8e congrès prévu du 18 au 19 décembre 2021, suivi de la reprise des travaux de la 71e session de son bureau politique national. 9,840 millions de francs CFA pour hausser le commerce burkinabé, le ministre en charge de l'économie et le directeur général de l'agence d'assurance du commerce en Afrique, ACA, ont signé une convention de partenariat ce jeudi matin à Ouagadougou. Procès Thomas Sankara à la barre du tribunal militaire ce jeudi des anciens éléments de l'escadron de transport et d'intervention rapide et tir et des anciens détenus de la MACO. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Politique, pour ouvrir ce journal, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP annonce la tenue de son 8e congrès prévu du 18 au 19 décembre 2021, suivi de la reprise des travaux de la 71e session de son bureau politique national. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi 16 décembre. Autre point évoqué à cette conférence de presse, la situation de crise que traverse actuellement le parti, suivant un extrait des propos de Dedi Komboigo au micro de Corinne Sawadogo et de Hervé Mbayam.
Nous avons eu à tort le congrès suspendu par une décision inique du tribunal de grande instance qui ne nous a pas donné satisfaction. Nous avons respecté quand même cette décision. Et nous avons fait appel. Nous avons eu raison en appel. La suspension a été annulée. Il n'y a plus lieu de convoquer. C'est une suspension a été levée. Donc vous fixez la date. On reprend nos travaux vendredi pour le BPR, 71e session, et le congrès les 18 et 19. On ira au congrès et le congrès choisira s'il faut aller du côté de l'aile historique ou de l'aile futuriste. Dans tous les cas, nous devons lire l'histoire du parti. Il doit lire l'histoire du parti et juger en vous-même. Et nous allons lire définitivement l'histoire du CDP et nous allons tourner la page.
Le président Roch Kabore a opéré des changements au sein de l'armée dans un décret signé ce jeudi. Des changements qui interviennent un mois après la mort de 57 personnes, dont 53 gendarmes et 4 civils dans l'attaque du détachement d'Inata au Sahel. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement depuis lundi 13 décembre, dans lequel plusieurs ministres ont gardé leur poste sous la houlette de Lassina Serbo, nommé premier ministre 3 jours auparavant. Notre correspondant Boniface Zakré a recueilli les avis des populations de la ville de Diébougou par rapport à leurs attentes vis-à-vis de ce nouveau gouvernement à travers un micro-trottoir que je vous invite à écouter.
Ce sont des moments difficiles. Je pense qu'avec la réduction du nombre qu'il a actuellement et qu'il a fait appel à des anciens, c'est vraiment objectif. Nous attendons de surtout sur la sécurité. Tout se repose sur la sécurité. Nous, en tant que commerçants, artisans, tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne peut même pas travailler. On n'a même pas la clientèle, la santé, l'éducation.
Ils n'ont qu'à grouiller pour qu'il y ait la paix dans le pays. Là, toutes les mamans seront soulagées. Et maintenant, pensez aux femmes. Aider les femmes, parce que la situation actuelle, vraiment, on ne s'en sort pas. Que le Seigneur leur donne longue vie et qu'il les éclaire dans ce qu'ils font.
Vraiment, on remercie beaucoup le Premier ministre entrant, le gouvernement qu'il a mis en place. Mais ce que moi, je souhaite à dire, ce n'est même pas les ministres là-même qui est le problème. Même les secrétaires généraux qui sont dans les ministères, qui n'ont qu'à faire pardon et bien travailler avec leurs ministres. Déjà, nous sommes en difficulté. Il y a beaucoup même de dépenses un peu partout. Ce n'est pas le nombre là qui est le problème. Même une seule personne, s'il peut faire le travail, il n'y a même pas de problème.
Ils n'ont pas fait vraiment un effort, qu'il y ait un changement dans le travail, et puis dans la sécurité surtout, et puis la pension alimentaire. Il n'y a pas à manger.
Pour le moment, comme ils n'ont pas encore commencé, c'est bien. Mais ce que moi j'ai à dire, ceux qu'ils ont nommés là, dans leur poche. J'aimerais que chacun fasse son travail. Moi, j'aimerais qu'eux-mêmes, ils sortent sur le terrain pour travailler.
Nous souhaitons que ce petit nombre-là puisse nous montrer que vraiment, il y avait un défi. Ils n'ont qu'à tout faire pour satisfaire les gens et songer surtout aux femmes. Maintenant, bon, nous souhaitons à ces femmes-là d'avoir le courage de leur dire la vérité.
De 35 ministres ou 36, on est redescendu à 25. Moi, j'ai dit c'est bien, mais c'est pas arrivé. Parce qu'il y a des ministères où on peut fusionner. Le ministère de la Défense et celui de la Sécurité, ça pouvait se fusionner. Le gouvernement a pris les choses en retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Vous voyez, le peuple est en train de crier sur l'augmentation des produits de première nécessité. Ça affaiblit la population. Le terrorisme qui est là, il faut vraiment faire face à ça. Alors qu'on laisse la main libre au premier ministre de travailler comme il veut et comme il peut.
Procès Thomas Sankara à présent à la barre du tribunal militaire ce jeudi des anciens éléments de l'escadron de transport et d'intervention rapide et tir et des anciens détenus de la MACO. Ils ont tour à tour relaté leur récit, des récits en lien avec les événements du 15 octobre. Le compte-rendu du procès, c'est avec Bernabé Cabré.
Louis Joanny Yamweko, commandant de la 4e région militaire à l'époque, est clair. L'assassinat de Sankara a été savamment préparé. On n'improvise pas une guerre, on la prépare, a-t-il soutenu ce jeudi devant le tribunal. Le témoin a reconnu la responsabilité de Blaise Compaoré, chef de corps du SENEC et de son adjoint Gilbert Diendieré dans le drame du 15 octobre 1987. Celui qui sera plus tard nommé commandant en chef de l'armée, l'équivalent du chef d'état-major général des armées, a insisté que le chef est responsable de ces éléments. Autre témoin à être entendu, Karim Sankara, sergent au moment des faits, disant être un parent éloigné de Thomas Sankara, l'ancien soldat confie avoir été arrêté par la gendarmerie 2 jours après les événements. Le 16, il se serait rendu à l'étire à Camboinsin de Michel Kouama pour lui demander la conduite à tenir. Mais ce dernier avait déjà été assassiné. Karim Sankara sera arrêté le lendemain, puis libéré le 23 août 1989. 10 jours après sa libération, il raconte que des soldats seraient venus le chercher au motif qu'il prépare un coup d'état. Il s'échappe et s'enfuit vers le Mali, la Côte d'Ivoire, puis le Ghana, où s'était retrouvé Boukari Kabore, dit le Lion. Après Karim Sankara, c'est Sacré Sinaré, soldat de première classe en service au Conseil de l'Entente, qui a été entendu. « Je jure devant la justice militaire que je vais dire la vérité, ce que j'ai vu sur le terrain », lance-t-il d'entrée. Il dit être de garde au Conseil ce jour-là et est arrivé à 15 heures. Après les événements, Karim Tapsoba, qu'il présente comme le régisseur de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, l'a appelé pour aider à ramasser des corps. 12 corps ont été mis dans un véhicule à l'aide d'autres éléments. Ils sont partis, c'est tout ce que je peux dire, mais je n'ai rien fait, lance-t-il pour se défendre. Bamori Ouattara, autre témoin en service à l'étire de Camboinsin, ne sait pas s'il était sergent ou sergent-chef à l'époque. Le 15 octobre, il entend des coups de feu alors qu'il était au terrain des sports. Un rassemblement est sifflé par l'adjoint du commandant. L'ordre leur a été donné d'aller au poste de Pabré où ils sont restés jusqu'au 16 octobre. Malgré plusieurs questions, le parquet et les parties civiles n'en sauront pas davantage, chose qui a agacé le président du tribunal qui lui a lâché ces mots. « En tant que militaire, tu ne te rappelles même pas de ton grade. Ton chef de corps est tué et enterré et tu n'es au courant de rien. » Vous pouvez rejoindre votre place. À sa suite, c'est un ancien prisonnier de la MACO qui a fait sa déposition. Kouma Ilboudo a aidé à creuser les tombes de Sankara et de ses camarades. Le témoin a affirmé avoir participé avec une trentaine d'autres détenus à l'inhumation du président Sankara et de ses compagnons au cimetière de Dagnoué à Ouagadougou. Le président Sankara est mort, le poing fermé, a affirmé le témoin en levant le poing pour soutenir ses propos. Kouma Ilboudo a aussi affirmé avoir retiré une bague du doigt de Thomas Sankara qu'il a ensuite vendue à 50 000 francs CFA. La bague sera plus tard retrouvée par le régisseur de la MACO.
Médiateur du Faso, Fatimata Sanou Touré, officiellement installé. Nommé par décret le 26 novembre 2021, la magistrate Fatimata Sanou Touré a pris officiellement les rênes du médiateur du Faso ce jeudi 16 décembre 2021. Devant le Conseil constitutionnel, Madame Sanou a juré de fidèlement et bien exercer sa fonction en toute indépendance et impartialité. Sur ce, Le Conseil constitutionnel a pris acte et l'a invité à avoir pour boussole l'indépendance, l'impartialité, la dignité, la loyauté et le secret professionnel. Elle remplace à ce poste Sarah Seremi qui occupait ce fauteuil depuis le 27 octobre 2017. $9,840,000,000 de francs CFA pour hausser le commerce burkinabé. Le ministre en charge de l'économie et le directeur général de l'Agence d'assurance du commerce en Afrique, ACA, ont signé une convention de partenariat ce jeudi matin à Ouagadougou. Cet accord entre État burkinabé et l'assureur du commerce africain vise à favoriser l'investissement extérieur du programme de développement et promouvoir ainsi l'employabilité de la jeunesse burkinabé. Compte rendu de Moumouni Tamboura et Chalda.
Protéger et faciliter le commerce extérieur est tout le sens de cette convention entre le Burkina Faso et l'Agence d'assurance du commerce en Afrique, ACA. Cette collaboration sera accentuée dans les domaines de l'investissement extérieur et de la diplomatie. Lassane Kabouré, ministre de l'économie et des finances.
Cette adhésion donc, du Burkina Faso à l'agence pour l'assurance du commerce en Afrique va permettre premièrement donc, à notre pays de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de cette structure en matière donc, de financement de nos projets, de programmes de développement. Vous savez que les partenaires privés, essentiellement, lorsqu'ils doivent investir dans un pays, il y a ce qu'on appelle le risque pays. Et ce risque pays souvent fait que le projet devient très cher et la plupart du temps, il demande des garanties souveraines, ce qui est impossible pour nos États d'assurer. Donc, l'adhésion avec l'agence va permettre donc de limiter donc ce risque pays, puisque c'est l'agence qui va rassurer ses investisseurs. Et particulièrement dans le solaire, aujourd'hui, nous avons beaucoup de sociétés qui veulent investir dans le solaire et ça sera l'occasion justement de pouvoir accélérer donc ces investissements structurants. Deuxièmement, quand vous prenez au niveau donc de l'état pur, lorsque nous partons sur le marché international pour faire des émissions, l'absence d'assurance, donc le risque pays, fait que souvent ces émissions peuvent être chères. Avec l'agence, nous allons donc présenter, l'agence va venir comme un assureur pour rassurer ses partenaires là qui veulent donc nous accompagner dans le cadre des émissions sur le marché international.
Les portes du business s'ouvrent pour le Burkina Faso, à en croire le directeur général de l'agence africaine, Manuel Moses.
Nous voulons soutenir le gouvernement burkinabé dans la création d'opportunités pour les jeunes dans le développement économique. Sans notre soutien, il devient difficile et coûteux pour le Burkina Faso d'accéder aux ressources pour l'investissement, le commerce et les importations. Mais avec notre soutien, nous pensons que nous pouvons obtenir de meilleures conditions pour le Burkina Faso et générer ainsi des opportunités pour son économie.
Ce financement de plus de 9 milliards permettra au Burkina Faso d'avoir les meilleures conditions du capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Avec ce partenariat, les investisseurs ont la garantie d'opérer sur le territoire burkinabé.
Le degré d'investissement de la douane au centre des échanges à Ouagadougou, la direction générale des douanes, a en effet lancé ce jeudi ses journées portes ouvertes autour du thème « Une douane moderne pour une optimisation des recettes budgétaires dans un contexte d'insécurité ». Durant 3 jours, l'administration douanière va mener des réflexions pour se rapprocher plus de la population. Raïna Tokouda et Marina Ouedraogo pour le compte-rendu avec la voix de Bernabé Cabré.
La douane ouvre ses portes au grand public. C'est dans l'objectif de se faire connaître davantage par la population et décliner ses missions et ses actions phares que l'administration douanière tient depuis ce jeudi et ce jusqu'à samedi ses journées portes ouvertes. Plusieurs activités vont meubler ces journées et la douane veut profiter de cette occasion pour renforcer sa proximité avec le public. Seglaro Abel Somé, secrétaire général du ministère de l'économie.
Ces journées permettent de faire la sensibilisation sur le civisme fiscal. fiscale, faire connaître cette structure pour que les contribuables et les usagers des services des douanes comprennent mieux leurs activités, disons leurs obligations par rapport aux douanes. C'est l'occasion aussi, dans le cadre de ces journées portes ouvertes, d'avoir des actions de solidarité dans le contexte national.
À travers ces journées portes ouvertes, la douane renoue avec une vieille tradition. Cela fait en effet 15 ans qu'elle n'a pas tenu une telle activité. C'est donc l'occasion pour elle d'échanger avec le public qui effectuera le déplacement dans le but d'optimiser les recettes budgétaires. Issaka Tapsoba, président du comité d'organisation.
L'objectif, c'est effectivement de se faire connaître davantage parce que effectivement, si on ne communique pas, il va de soi que beaucoup d'interprétations à tort ou à raison interviennent. Mais plus vous vous ouvrez, plus les gens savent en tout cas ce que vous faites, ce qui est entrepris comme activité à l'intérieur dans tous les domaines possibles.
Un don de sang, des dons aux veuves et aux orphelins des FDS et la remise de vivres aux déplacés internes sont quelques activités qui seront menées au cours de ces 72 heures.
Après son lancement le vendredi 19 mars 2021 à Ouagadougou, les opérations d'enregistrement des exploitations agro-silvopastorales halieutiques et fauniques sont entrées dans leur phase active. Les acteurs intervenant dans le développement rural tiennent ce mercredi 15 décembre 2021 à Ouagadougou un atelier national d'information et de sensibilisation sur le projet. Cette innovation qui marque une reconnaissance du statut d'exploitant agricole constitue une avancée notoire dans le processus de modernisation de l'agriculture au Burkina. Les explications du président de la Chambre nationale d'agriculture, Moussa Kone, interrogé par Joël Sori.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons un fort engouement autour de ce processus. On enregistre aujourd'hui plus de 200 000 demandes d'enregistrement à travers tout le pays. Et nous allons profiter vraiment de cet atelier de sensibilisation pour porter cette information à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur agricole pour que cette dynamique-là soit vraiment prise par tous les partenaires techniques et financiers afin que nous puissions réussir cette mission. Ce que je voudrais ajouter, c'est que au jour d'aujourd'hui, le statut de l'agriculteur est connu. Et ce statut est resté très vague pendant très longtemps. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers quant à l'opérationnalisation de ce décret qui va permettre de conférer réellement un statut juridique aux producteurs. Et nous sommes aujourd'hui engagés au niveau des chambres d'agriculture pour que l'ensemble des producteurs puissent vraiment disposer de cette carte professionnelle de l'agriculteur. Et ça va permettre à ces producteurs de pouvoir bénéficier de beaucoup d'avantages allant dans le sens de l'accompagnement des pouvoirs publics, que ce soit les subventions, que ce soit toute forme d'aide des collectivités ou même de certains partenaires techniques et financiers. L'objectif réel de ce processus est d'avoir en entier une bonne cartographie des acteurs du monde. Et ça va permettre également à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de cibler réellement les interventions. Et comme conséquence également, c'est la professionnalisation des acteurs du monde rural.
Le programme national du volontariat au Burkina Faso à travers le ministère de la Jeunesse et le gouvernement d'intérêt public programme national de volontariat a procédé ce mercredi à Ouagadougou à la clôture de son atelier de validation. Le projet vise à élaborer des stratégies de communication avec les structures partenaires pour plus de visibilité du ministère dans la promotion de l'entrepreneuriat sur la période de 2022 à 2031. Compte rendu Moumouni Tamboura et Mariam Soma.
Le programme national du volontariat du Burkina est un moyen de développement personnel à la construction de l'État burkinabé en ce sens qu'il offre une formation aux volontaires dans les divers domaines. Bouraïma Nabaloum, DGGIP, PNVB.
Permet aussi à la nation de pouvoir valoriser le capital humain. Parce que nous avons plusieurs jeunes qui sortent avec les diplômes dans les universités, ou qui sortent avec des compétences, des qualifications dans les centres de formation professionnelle, mais qui malheureusement se retrouvent sans activité et qui cherchent même des simples stages qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc ils désapprennent même souvent. Nous pensons que le volontariat est une aubaine pour ces jeunes-là de se sacrifier pour leur pays d'abord et en retour, ils acquièrent de l'expérience professionnelle, des compétences professionnelles qui permettent de faciliter leur insertion professionnelle plus tard. Nous pensons que le volontariat vient être une solution stratégique pour le gouvernement pour pouvoir occuper sainement la jeunesse, pour promouvoir la jeunesse, mais en même temps répondre aux besoins de la population. Parce que la mission qui est accomplie par le volontaire sont essentiellement des missions de services sociaux de base au profit de la population. Ce qui veut dire que le volontaire est un instrument assez complet et stratégique pour la promotion de la jeunesse.
Pour l'atteinte de ces objectifs, le programme national de volontariat du Burkina s'est donné de nouveaux objectifs. Alexis Sana, consultant du projet PNVB.
Il s'agit ici en fait de trouver des solutions, notamment qui s'imposent en termes de défis que sont la promotion de l'insertion, améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, améliorer la visibilité et la communication autour du volontariat et améliorer la compétence et les capacités des acteurs de volontariat et aussi adopter une démarche qualité dans le management du volontariat.
Le programme national du volontariat au Burkina demande à l'État plus de financement dans leurs projets afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés d'ici 2030. À savoir amener tous les acteurs du volontariat à une synergie d'action dans une même vision pour améliorer leur impact sur le développement du Burkina Faso.
Page triste à présent, le baobab de la presse nationale s'est écroulé hier soir. Roger Nikema, fondateur et directeur général de la radio Salam Kolonto, a tiré sa révérence à l'âge de 86 ans, suivant la réaction de quelques anciens de la presse nationale qui lui rendent hommage.
Je suis Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observatoire Palga. Quand vous prononcez le mot Roger Nikema, je me fais tout petit. Parce que chaque fois quand on me donne du doyen, j'ai toujours dit, tant qu'un Roger Nikema est là, peut-être même pas un vice-doyen, c'était la voix qui nous a tous séduits quand nous étions tout petits. Ce fut vraiment une grande voix radiophonique. Ça, c'était un don. Il l'a eu naturellement. Sa voix fait partie des mythes de notre radio. Mais il a fait également la télévision. Lui, il fait partie de ceux qui sortaient quand même un peu des sentiers battus. Quand il présentait le journal, il le présentait avec une certaine valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de lire les dépêches d'agence et autres, mais il savait introduire en puisant dans sa vaste culture générale.
Je suis Yacouba Traoré. Je suis journaliste. Roger Nikema fait partie de la race, je dis bien, je pèse bien mes mots, c'est la race des journalistes du Burkina qui doivent servir de référence, même de la sous-région. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont ceux que les Anglais appellent des self-made men. Ils ont été journalistes parce qu'ils le voulaient. Roger Nikema, c'est d'abord un écrivain. Il est passé de stage en stage. Mais c'est une icône du journalisme. Moi, je dis que c'est un taulier. C'est un taulier du journalisme burkinabé, Roger Nikema. C'est pas seulement un journaliste, c'est un enseignant. C'est un éducateur, c'est le mot. Et moi, mon rêve, c'est d'écrire sur lui, sur Roger Nikema. Roger Nikema est une institution. Je trouverais que ce soit dommage que les générations qui montent ne connaissent pas son histoire. Parce que c'est ça notre mal. On oublie très vite ceux qui sont passés avant nous.
Je suis Jeanne Koulibaly, ancienne présentatrice du journal télévisé à la TNB. Roger Nikema, je peux dire que c'est un monument, un baobab du milieu du journalisme et de l'information. Si on pouvait trouver encore un deuxième Roger Nikema, vraiment la jeunesse en train de monter là, il y aura une bonne pépinière, mais hélas. Je suis d'ailleurs contente qu'il ait une radio, que Papa Roger soit là ou qu'il ne soit plus là. À travers sa radio, on verra toujours Roger Nikema, le bon vieux sage, celui qui a toujours prodigué des conseils.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. À la présentation, c'était Djamila Setoupan. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Moi, c'est Emmanuel Kabouy. Je suis le papa de Lionel Kabouy, qui a été assassiné le 6 juin 2020. Il venait d'un pot d'anniversaire. Il a été trahi par un des gendarmes de faction dans la cour de l'hôtel Palace. En fait, il revenait du restaurant La Perle. Il était à trois camarades. Son pot d'anniversaire. C'est un jeune, c'est normal. Après son assassinat, le procureur a estimé qu'il fallait ouvrir une enquête et procéder à une autopsie. Et quoi ? Ce qui a été fait. 2 mois après l'assassinat, On pensait que la justice allait avancer, évoluer, mais bon, on a constaté que rien n'a bougé. C'est là que nous avons déposé une plainte, seulement le 11 août, le procureur de Faso. J'ai été reçu par le procureur parce qu'on n'a pas d'informations. Il m'a rassuré que les choses se passaient bien et que bon, il attendait le dossier de la gendarmerie.
D'accord.
Le bureau de la gendarmerie. Nous avons attendu 6 mois, 9 mois, toujours pas de suite. C'est là que j'ai eu recours. J'ai demandé un rendez-vous, une audience auprès du ministre de la Justice. Cette audience, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de suite. Récemment, le 28 octobre, j'ai redemandé une audience auprès du ministre de la Justice, mais jusque-là, je n'ai pas eu de suite aussi. C'est pour vous dire que le dossier, il est confié à mes avocats, à Maître Farama et Maître Birba, qui sont sur le dossier. Mais jusque-là, le juge d'instruction qui a été chargé du dossier, 9 mois après, jusque-là, on n'a pas été touché. Demander comment les choses sont passées et nous faire le point de l'avancée de l'enquête. Nous avons encore attendu. Nous avons passé par les presses, notamment les presses privées, les journaux d'investigation, pour relater les faits parce que quand on l'assassinait, on a voulu masquer l'assassinat. On a voulu donner l'impression que c'était un. Il faisait partie d'un gang, lui-même qui a dégainé et le gendarmerie a riposté. Alors qu'en réalité, l'enfant n'avait aucune arme sur lui. Il était juste en déplacement. Pour rentrer chez lui. Il est seul dans son véhicule. Et on l'a crié du bas de dos quand il a dépassé le portail d'entrée de l'hôtel. Il n'était pas un danger pour
ni les gendarmes. Il n'était pas une menace.
Une menace pour ni les trois gendarmes qui étaient de façon, ni résident de l'hôtel. En plus, il n'était pas armé. Crié de balles, une dans sa nuque et 7 impacts sur son véhicule à l'arrière. Ça veut dire que manifestement, il y a un problème. Et c'est ça qu'on cherche à comprendre. Qu'est-ce que Lionel a fait pour mériter ce sort-là? Ça fait 18 mois aujourd'hui. Nous attendons toujours une suite. Nous avons relancé par voie de presse. Les journaux ont relayé notre publication. Okay. Nous avons posé 14 questions. Pourquoi les gendarmes ont fait disparaître les douilles de balles? Pourquoi ils sont venus utiliser la cassette vidéo dans l'hôtel? La cassette qui a justement filmé les faits. Pourquoi? Pourquoi ils sont venus prendre le véhicule pour l'amener à la gendarmerie? Aujourd'hui, nous sommes inquiets. On se demande, mais Lionel n'est pas Burkinabé? Lionel n'est pas un citoyen Burkinabé? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce